Hey, HTP, c'est l'automne.
Saute dans les feuilles.
Vas-y, viens. HTP.
HTP, automne.
Écoute, frère. En automne, HTP Radio, ça envoie des tonnes.
HTP Création.
Vas-y, c'est quoi?
Arrête de m'embrouiller.
C'est chelou, hein.
T'as capté le délire?
C'est quoi?
Salut et bienvenue à tous. On est ici avec Zaimo, Ayour, Florence et Hélène et Pauline de la Technique. On est en situation quasi directe sur le plateau d'HTP Radio. Une édition spéciale au sujet de l'expulsion annoncée du wagon souk à Königshofen, route des Romains. Moi, c'est Louis, je suis coordinateur d'HTP Radio. On est actuellement dans les locaux de l'association Horizome, au 42 avenue Racine, à Haute-Pierre. Mais avant de commencer, écoutons quelques extraits pour situer notre échange avec Zaimo et Hélène.
J'ai de belles vues, et t'auras d'autres plans d'eau, crâne d'arrêt pour en extraire le pu. La belle sape, bon goût le sud, les poils sont bagou. Les mafieux du Var, le fer de trop, les poilus. De guerre mondiale, un titre de champion collabo. Un maréchal et ses fils, œil de verre et poireaux. Les soldats disparus, les tirailleurs inconnus. Les partis politiques aux proxes, aux gauches, droite, libéraux. Une révolution, les droits de l'homme, plein de pognon. Un hologramme à Matignon, pète-vous les poignées de main. 5 républiques, 3 Napoléons, une démocratie. 3 millions d'étrangers parqués dans une poignée de main. Une France symbolique, un flic, un flec, des vies symboliques. Un sous-sol plein d'espoir, un social symbolique. Un arabe au trésor, 2600 au cachot. Donc, une couleur de plus au drapeau. Allons enfants de la patrie et de rapatrier. Le jour de gloire est arrivé pour ceux qui se mettent à crier. Une couleur de plus au drapeau. Une couleur de plus au drapeau. Contre l'eau de la tyrannie, faut consentir mon gadjo. L'étendard sanglant se lève pour stopper le sanglot. Une couleur de plus au drapeau. Une couleur de plus au drapeau.
Se découvre d'une hauteur, colline, tour, clocher. Au cours de l'ascension, elle surgit dans son immensité, dans sa complexité qui n'est pas moindre que celle d'une forêt ou d'une mer. L'ampleur de l'étendue qui se déploie sous le regard suscite une illusion. Le spectateur peut croire n'avoir devant lui qu'un spectacle, un tableau disposé pour son agrément. Or, la ville lui révèle en cet instant quelque chose d'essentiel. Vers elle accourt, en elle se condense tout ce que contient l'espace, tout ce qui se produit dans le monde, les biens, l'argent, les œuvres, les hommes. Elle les accueille, elle les concentre.
Ici on est au wagon souk, c'est un interlieu solidaire, interculturel et artistique. On est installé ici depuis 12 ans et là on est menacé d'expulsion. Donc c'est une longue histoire, c'est un lieu qu'on a commencé en tant que projet artistique avec Hélène Imbert et Mama. Mama c'est une sans-papier sénégalaise, où ça fait 9 ans en fait, qu'elle se bat pour le papier. Et c'est là il y a eu cette rencontre avec Mama et du coup on a décidé de mettre en place ce projet. Et du coup c'est un projet qui a pris... qui se construit au fur et à mesure des rencontres. Donc des rencontres d'envie, des potentialités, des gens qui sont souvent invisibilisés, qui sont mis à côté. Il y a des sans-papiers, il y a des sans-abri, il y a des gens précaires. Donc petit à petit, en fait, le projet Wagon Souk s'est structuré. Aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui se croisent. Il y a la cantine solidaire de Mama Souk. Il y a un magasin gratuit aussi. C'est un projet qu'on a mis en place pendant le confinement. Donc c'est un magasin ouvert qui propose des denrées alimentaires aux gens précaires, en fait, inconditionnellement. Il y a aussi le dispensaire de plantes. C'est des plantes qu'on récupère, qu'on sauve du panier de chez vert des magasins, puis on les fait adopter à prix libre. Il y a aussi une friperie solidaire, il y a aussi un salon de beauté solidaire, il y a aussi une tentative de recyclerie solidaire. Et tous ces projets-là, bah, en fait, c'est actuellement le dernier projet, c'est Cycle Souk. Donc c'est un projet de réparation et vente de vélos à prix solidaire avec Yanis, un demandeur d'asile marocain, dispensaire de plantes, c'est avec Jamel, un demandeur d'asile soudanais. Il y a une pâtisserie aussi, il y a Gabi, c'est une dame. Ben voilà, c'est aussi une femme forte en fait, qui est précaire, qui nous a proposé aussi de faire de la pâtisserie. Donc on essaye de valoriser son savoir-faire. Voilà, et en fait c'est beaucoup d'histoire humaine et de rencontres. Et voilà, et tout ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en valeur ça.
Zaï et Hélène, est-ce que vous pourriez vous présenter en deux mots?
Ben moi du coup c'est Hélène et je suis artiste, illustratrice. Et cofondatrice du Wagon Souk avec Zaï, du coup.
Moi, c'est Zaïmo, donc alias Mohamed Ali pour les intimes. Je suis artiste jardinier et je suis aussi cofondateur du Wagon Souk.
Ben merci déjà, on t'a entendu juste avant présenter de manière assez complète toutes les activités du Wagon Souk. C'est assez intense, la liste est assez riche. Moi, je voulais vous demander, pour contextualiser un petit peu ce qui se passe aujourd'hui avec l'expulsion annoncée du Wagon Souk, en quoi les activités proposées dans le lieu que vous tenez ont posé problème dans le parc Gruber, là où est le Wagon Souk ? Zaï ?
Parc Gruber, en tout cas, c'était d'huile de pur en posé problème. Problème de voisinage et puis d'une façon de faire assez différente des autres. La création en fait, du Wagon Souk, elle s'est suivie par la mise en place de squats d'hôtel de la rue. Et du coup, ben, c'était un peu un feu de paille dans le parc. Donc ça a pas mal fait bouger un peu le parc. Puis surtout, d'un coup, on voit trop de pauvres, du noir, des arabes. Et surtout, on n'arrive pas à les contrôler.
En quoi c'est gênant de voir ces personnes-là? Qu'est-ce qui te dérange?
Le parc Gruber, déjà, c'est une ancienne brasserie qui a été racheté par plein de propriétaires différents qui sont quand même des grosses familles strasbourgeoises qui ont beaucoup d'argent. C'est la bourgeoisie, clairement, c'est la bourgeoisie alsacienne. Donc, et ça va faire presque 50 ans qu'ils sont là. Donc d'un coup, d'un seul, leur paysage, il change. Et ils ne changent pas de la manière dont ils aimeraient qu'ils changent, quoi. Ils voient toute une partie de la population qu'ils ont déjà pas l'habitude de voir, et en plus de ça, qu'ils n'ont pas du tout envie de voir en bas de chez eux. Donc c'est surtout ça qui a changé, je pense, et qui a posé principalement problème. Enfin, on l'a bien vu, nous, quand on est arrivé, puis quand a ouvert l'hôtel de la rue, les premières plaintes venaient des propriétaires et des locataires qui sont là depuis longtemps, et étaient clairement dirigées contre les personnes migrantes. Donc voilà. Enfin,
on va passer un extrait pour parler de cette envie que vous avez de changer la ville. On va entendre Jean-Louis Bertuccelli dans un film documentaire à propos du droit à la ville d'Henri Lefebvre.
De puissants contrastes se déploient à la fois dans l'horizontale entre les divers Paris et dans la verticalité entre le haut et le bas, la lumière et l'ombre. Dans les bas-fonds traîne la quotidienneté. À l'évanescente splendeur répond la réalité humble. Changer le quotidien, ce serait changer la vie. Cette transformation mériterait, et elle seule, le nom de révolution.
Alors est-ce que, comme dans cet extrait, pour vous, changer le quotidien de personnes précaires, et comme vous l'avez dit juste avant, de personnes migrantes ou réfugiées, je ne sais pas quel est le bon terme, est-ce que pour vous, changer ce quotidien, c'est déjà une révolution au Wagon Souk?
C'est déjà une révolution, c'est un grand mot, je pense, la révolution en tout cas, puis... En fait, en tout cas, tout ce qu'on a constaté, même en arrivant à Strasbourg pour une aéro-métropole, et puis surtout la prétention d'être une capitale de l'Europe, et puis aussi le siège du droit de l'homme, c'est quand même pas rien. Il suffit de passer devant le siège du droit de l'homme pour voir le nombre de gens qui demandent justice. Et en fait, qu'il n'y a pas de lieu d'accueil. Donc en fait, un lieu d'accueil, c'est un lieu où... ou un repère, quoi. C'est comme l'office du tourisme, mais pas pour le touriste. Et du coup, en fait, voilà, c'est justement une des choses qui nous a un peu choqué, vraiment, en fait, c'est qu'il n'y a pas ces espaces-là. Et du coup, le fait d'avoir des repères où les gens sans papier, les gens réfugiés, les gens de passage, en fait, ils disent qu'ils sont accueillis, qui sont un lieu qui peut les appartenir, bah, c'est en soi, c'est déjà quelque chose à Strasbourg. Oui.
C'est vrai que il n'y a pas d'endroit comme ça à Strasbourg, en tout cas, où les personnes peuvent se sentir juste bienvenues. Et le seul endroit aujourd'hui où tout le monde devrait pouvoir se dire « cet endroit peut m'appartenir, c'est l'espace public ». Et on se rend bien compte que c'est complètement faux. Donc ouais, c'est un lieu qui est du coup aujourd'hui nécessaire.
Alors Zay, on va revenir justement sur cette idée de très importante pour vous. On a l'impression qu'elle est centrale, cette idée d'être accueillant et du coup de fournir des lieux d'accueil qui soient des recours face à l'espace public qui est de moins en moins accueillant. Zaymo, tu as été impliqué dans la création de l'Hôtel de la Rue, le collectif Horizome, dans le collectif des sans-papiers d'Alsace, si je ne me trompe pas. Pour toi, quelles sont les idées, les valeurs qui relient ces différents engagements?
Horizome, la pensée du colonial, là, m'a un peu foutu ma vie en l'air, quoi. En gros, en fait, on ne se fait pas des amis quand on est... qu'on cherche en fait justement le pouvoir d'agir, puis surtout en fait avec une pensée de construire les choses, de le voir d'en bas. Le lien en tant que valeur, c'est les valeurs très simples, c'est des valeurs humaines, et de croire en fait qu'on a tous un potentiel, et qu'on a tous, ou pas, hein, ou qu'on a tous un droit d'exister, d'être. Donc à partir de là, ben, en fait, on se considère, et à partir de là, on se regarde humainement.
Hélène, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment le conflit a commencé, si conflit il y a, et pour toi, quels sont les enjeux de cette expulsion peut-être de ce conflit?
Le conflit, il a commencé à partir du moment où on a mis les pieds dans le parc Gruber. Enfin, on a bien tout de suite senti qu'on n'était pas bienvenus, que notre manière de voir les choses, le monde, les projets était un peu en contradiction avec ce qui était en place déjà depuis des années, à savoir quelque chose de très fermé, de très ethnocentré, de très
élitiste.
Et nous, bah, on a tout de suite, d'entrée de jeu, essayé d'aller un petit peu à contresens de ce truc-là. Donc bah, forcément, on s'est pas fait des potes, quoi. comme on n'a pas... nous, on a décidé de maintenir notre cap, donc c'est un peu c'est une suite de conflits, on va dire, qu'on n'a pas, nous, en tout cas nous, notre élan, c'était pas du conflit, c'était essayer de faire ensemble quelque chose de différent, et ça a généré du conflit, et le conflit, c'est pas forcément quelque chose qui est négatif, mais dans ce contexte là c'est quelque chose qui l'est, parce que on se retrouve face à des espèces de statues alsaciennes qui n'ont pas du tout envie de se mettre en mouvement, quoi. Donc ça, c'est compliqué déjà. Et puis bon, bah, un enchaînement de... Enfin, nous, par exemple, on a à chaque attaque, on a toujours répondu simplement par l'action et par le faire, par l'agir, par le projet, par continuer à faire ce qu'on a à faire, continuer d'accueillir, continuer d'organiser des événements, continuer de proposer un lieu de vie. En fait, ça a toujours été notre seule réponse. Et en fait, plus le projet grandit, plus le projet évolue, plus les statues en face ont vraiment envie de récupérer leur piédestal, quoi. Parce qu'elles sentent que leur socle y vacille, et ça leur plaît pas du tout. Donc forcément, ça prend de l'ampleur jusqu'à cette lettre d'expulsion qui est un peu la matérialité de tout ce qu'on vit depuis qu'on est là-bas, quoi. Donc où on nous a jamais clairement dit de partir, bah là maintenant c'est fait, c'est clair, c'est dit, c'est public. Donc c'était peut-être la seule chose qui n'était pas encore vraiment actée, leur volonté de nous voir partir. Et pourtant, ça fait pas très longtemps qu'on est là-bas. Donc faut... À tel point, l'acharnement est vraiment vindicatif, quoi. C'est pas... on a l'impression de leur voler quelque chose, quoi. Alors que c'est un espace qui devrait appartenir à tout le monde, en fait.
On va revenir sur cette idée d'espace qui devrait être en bien commun et qui ne peuvent pas l'être parce que des intérêts divergents ou surplombants empêchent... à tout un chacun, à tout un chacune de s'approprier l'espace public. Mais c'est vrai qu'il y a cette phrase qui dit que quand les intérêts se dévoilent, souvent les masques tombent. Et là, on peut parler d'intérêts qui sont contradictoires. En tout cas, c'est ce qui semble apparaître. On va revenir sur les enjeux de ce qui se passe autour de l'expulsion du wagon souk un peu plus tard dans le plateau radio, mais pour le moment, on va entendre un extrait du film qui parle du quartier du Pile à Roubaix et qui parle du ressenti d'un habitant au sujet de la démolition de son ancien lieu de vie.
Le projet urbain pour notre quartier, nous l'avons espéré, nous l'avons cru bon pour nous et pour le quartier. Cela devait changer nos vies, nous apporter un plus, sortir notre quartier vers le haut, et puis le projet a évolué. Vient alors l'incompréhension, le dégoût, la révolte et le renoncement. À quoi bon se battre? Au diable le quartier et son avenir. Allons voir ailleurs si nous retrouverons ce qui a été perdu ici. Mais au fait, qu'avons-nous perdu?
Et c'est une question extrêmement intéressante que pose ce monsieur qui habite le quartier du Pile à Roubaix, qu'on a entendu. Est-ce que, Zaï et Hélène, vous posez aussi cette question, en quittant ce lieu qui a une histoire pour vous, puisque c'est là que vous avez fondé votre bébé, comme tu l'appelles, Zaï, le wagon souk, est-ce que la question se pose au fait qu'avons-nous réellement perdu avec cette expulsion?
Moi, je ne suis vraiment pas attaché, en fait. Je n'ai pas du tout cette notion de territoire où je suis attaché à un lieu bien précis, en fait. Je suis un immigré, donc voilà, je n'ai pas d'attache, vraiment. Je voyage. Et surtout justement, pour contrecarrer en fait cette pensée coloniale, c'est d'être, de ne pas l'être. Et du coup non, c'est en fait, c'est juste la même chose. En fait, c'est juste, c'est des lieux de vie, des gens précaires. C'est des interstices un peu de liberté, de respiration, en fait, qui permet à des gens qui ne peuvent pas être, se déployer. Simplement en fait en ville, voilà, ça permet, voilà, c'est des lieux là qui sont hyper intéressants sur le point de vue social, culturel et même parfois dans la rénovation économique. Et c'est des choses, c'est des espaces qui sont importants en ville. Et donc l'espace là, les interstices un peu informels où il y a des choses, d'autres formes d'organisation qui s'organisent, encore une fois, en 2021, encore une fois, en fait, ces choses-là sont appelées à disparaître, sont appelées à être contrôlées, à être ailleurs, en dehors de la ville en général. Et du coup, c'est plutôt ça, en fait. C'est juste, c'est la même chose, quoi. C'est toujours la même histoire de construction d'une ville capitaliste et surtout une ville, comment dire, c'est une espèce de. D'inertie, en fait, d'inertie de vie culturelle, d'inertie de vie sociale. Donc voilà, c'est une ville assez plaisée où presque tout le monde se ressemble à peu près, quoi. Il faut en fait bien contrôler. Et du coup, avoir ces espaces-là, en fait, surtout à Strasbourg, en fait, moi je ne connais pas assez, mais en fait, les témoignages que j'ai eu de plusieurs personnes, en fait, qui connaissent un peu l'underground de Strasbourg, en fait, justement, c'est toute la culture alternative où, à tel point, en fait, ça galère à Strasbourg. Et voilà, c'est encore une preuve de plus que celui-là, ils n'ont pas lieu d'être. Donc, voilà.
D'accord. On voulait savoir aussi, c'est le lieu d'en parler là, dans ce plateau radio, c'est quoi les perspectives pour le projet du wagon souk que vous avez concrètement pour la suite?
Là, en fait, on est en vérité, quoi. En fait, on est un peu fatigué, vraiment, en fait, justement, à force, en fait, voilà, de se déployer dans le forcing ou se déployer dans la résistance, en fait, et pour des choses qui nous paraissent évidentes. Parfois, oui, on est fatigué, donc peut-être on a besoin de se ressourcer un petit coup, quoi. Justement, le questionnement qu'on avait, en fait, c'est comment faire gentrification autrement. Les agressions sont tellement énormes, en fait. Là, il y a, je sais pas, on a fait une campagne d'affichage. Le nombre d'affiches qui étaient taguées avec des tags racistes, extrême droite, l'ordre nouveau, des trucs comme ça, en fait, des gens arrachés, tout ça, en fait, ça montre à tel point, en fait, ça, c'est des choses qui font flipper un peu. Et puis surtout, en fait, le silence, quoi. En fait, il y a juste une manœuvre de Madame Gérard Barcelion avec son conseiller, en fait, au moment qu'on avait lancé un rassemblement, en fait, devant la mairie, qui nous ont contactés et qui ont fait en sorte, en fait, soi-disant, un sursis des propriétaires pour dépasser l'histoire du 12 octobre. Voilà. Et après, c'est silence, assourdissant. Donc en fait, je sais pas trop. À part en fait, soit il y a deux choix en fait, soit moi j'ai toujours dit que nous on est de la mauvaise herbe et plus on nous arrache, plus on s'acharne et ça restera toujours. Après justement, on reste quand même des gens précaires, vulnérables vraiment. Il y a des gens hyper vulnérables avec nous et justement en fait, c'est une position un peu toujours délicate. Tu dis est-ce que on peut se battre? En fait, réellement, qu'on est aussi vulnérable. Et du coup, voilà, là, actuellement, ce qu'on cherche, c'est une légitimation, en fait, un peu d'assurance, un peu juste dire qu'on va faire ce qu'on a envie de faire, et sans stresser, sans avoir peur, sans toutes ces frustrations-là et tout ce stress, quoi, en fait, qui est énorme. J'en rêve, est-ce que ça existera? Je ne sais pas du tout. C'est sûr qu'on est là, en tout cas, avec les gens et. Puis on verra pour le Vagonsouk.
Merci beaucoup pour ces paroles difficiles. Je comprends, la situation est difficile et on note la violence qui est juste indéniable dans la situation que vous traversez au Vagonsouk. Peut-être pour parler de ces choses qui nous donnent du courage, on va passer un morceau que Zay, tu nous as recommandé de Samara, un rappeur tunisien, si je ne me trompe pas. Le titre.
Chez moi.
Allez, de chez Zay. Sitou Linseni, peut-être que tu le diras mieux que moi, mais on entend Samara. Nous redonner de la joie. Et c'était Samara, on entend ses dernières paroles, ils sont « La vie, c'est pas facile ». Peut-être un mot, Hélène et Zay, sur cette chanson, brièvement, parce qu'on est pris par le temps, mais peut-être un mot sur cette chanson, Zay, c'est toi qui l'as choisi.
Samara, c'est un rappeur tunisien que j'aime beaucoup, ça, il vient aussi du bas-fond du banlieue de Tunis. Et du coup, en fait, dans sa chanson-là, il dit « Vas-y frère, lâche-les, ils ont un cœur tout noir en fait, mais toi, t'as déjà donné, t'as donné ton art. » Donc, ouais.
C'est trop beau, merci.